Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons aujourd'hui au numéro 29. Et notre thème sera combattre le découragement. Voici ce que dit docteur, c'était un médecin d'abord, plus tard il est devenu docteur en théologie, mais c'était un médecin, docteur Martin Lloyd-Jones. Voici ce qu'il dit. Ce dont nous avons le plus besoin pour l'heure, c'est d'une église qui retrouve sa vie et respire la joie. Les chrétiens malheureux donnent une piètre image, et c'est peu dire de la foi chrétienne. Le psaume 42, verset 6, nous dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est lui, mon sauveur. » Et le psaume 30, verset 6, « Son courroux dure un instant, or sa faveur est pour toute la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. » Dans ce CD, nous allons aborder la question du découragement ou de l'abattement. Il ne s'agit pas de la dépression proprement dite, car de nos jours, ce terme évoque une pathologie. Néanmoins, je fais référence ici à autre chose qu'au simple fait de se sentir momentanément morose le soir, après une journée difficile. Entre ces deux états se trouve évidemment un vaste étendue marqué par la tristesse et dans laquelle vivent beaucoup trop de chrétiens. Or, ce vécu est le plus souvent dû à un manque de foi dans la grâce de Dieu à venir, et dans ce sur quoi elle repose, c'est à savoir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà donc le type d'incrédulité que j'aimerais nous aider à combattre dans ce CD. En 1954, Martin Lloyd-Jones a prêché une série de sermons à Westminster Chapel, à Londres. Il publia par la suite dans un ouvrage intitulé « La dépression spirituelle ». D'après ce que j'observe, le diagnostic qu'il faisait alors à propos de l'Église au milieu du XXe siècle est encore valable aujourd'hui. Voici du reste ce qu'il disait à cette époque. Je réaffirme sans hésitation que l'une des raisons pour lesquelles l'Église chrétienne compte si peu dans le monde moderne est que de nombreux chrétiens se trouvent dans cet état de dépression spirituelle. Eh bien, ce sont, donc nous avons le plus besoin pour l'heure, c'est une Église, c'est ce que nous avons le plus besoin. C'est d'une église qui retrouve sa vie et respire la joie. Les chrétiens malheureux, ils donnent une piètre image. Et c'est peu dire, quand même, c'est peu dire de la foi chrétienne. Or, avant de devenir prédicateur, Martin Lloyd-Jones avait été un médecin très estimé. Et cela donne un poids particulier à ses observations concernant les causes du sentiment de découragement qui mine tellement de chrétiens. D'ailleurs, il ne se montre nullement naïf quant à la complexité des facteurs qui engendrent le découragement. Voici par exemple ce qu'il dit à ce sujet-là. Certains sont par nature beaucoup plus enclins que les autres à la dépression. Nous avons beau être convertis et même régénérés, eh bien notre personnalité fondamentale reste la même. Résultat, c'est que ceux qui ont davantage tendance à la dépression avant leur conversion continueront à devoir beaucoup lutter contre ces tendances après leur conversion. Donc l'histoire de l'Église comporte de nombreux exemples douloureux de cette réalité. L'un des plus poignants, c'est l'histoire de David Brainerd. Lui, il fut un jeune missionnaire parmi les Indiens de la Nouvelle-Angleterre. Il semble que sa famille a eu une prédisposition inhabituelle à la fragilité et à la dépression. En effet, non seulement ses parents sont morts jeunes, mais son frère Néhémie décéda à l'âge de 32 ans. Son frère Israël, à l'âge de 23 ans. Sa sœur Jéruja, à l'âge de 34 ans. Et lui-même, il a vécu pas au-delà de 29 ans. Un de ses descendants du nom de Thomas Brainerd a raconté ceci. Depuis 200 ans, toute la famille Brainerd, elle est marquée par une tendance à la dépression morbide qui s'apparente carrément à l'hypochondrie. L'hypochondrie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, eh bien, il faut regarder dans un livre de médecine, je vous en prie. Il y a non seulement la question de l'influence de l'hérédité sur le tempérament et sur la personnalité, mais aussi celle de l'incidence de l'état physique sur notre humeur, et notamment sur celle des plus fragiles. Citons à nouveau ce cher docteur Martin Lloyd-Jones. Il dit « J'ai rencontré un grand nombre de chrétiens souffrant de dépression spirituelle dont la cause m'apparaissait très clairement être d'ordre uniquement physique. Nous pouvons inscrire dans cette rubrique la fatigue des insomniaques, car de nos jours, il y a beaucoup plus d'insomniaques que vous croyez, et à la longue, ça fatigue. Il y a le surmenage et la maladie sous toutes ses formes. Le domaine spirituel ne peut nullement se dissocier du côté physique, car nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons en un illustre, c'est-à-dire Charles Haddon Spurgeon, nous avons là un excellent exemple d'un chrétien exceptionnel et de très grande possibilité. C'était un prédicateur hors pair chez qui il est quasiment sûr que la récurrence des périodes d'abattement, elle était due à une large mesure à l'affection douloureuse dont il était atteint, c'est-à-dire la goutte. Ça n'avait rien à faire avec boire du whisky. On a donc du mal à imaginer l'éloquent et ce brillant Spurgeon qui débordait d'énergie et dont les compétences paraissaient illimitées. Il arrivait même à pleurer comme un enfant, sans pouvoir se l'expliquer. C'est alors qu'il avait 24 ans que cela lui arriva pour la première fois. Il raconte ceci: « Mon moral était tombé si bas que je pouvais pleurer comme un enfant pendant toute une heure sans pouvoir autant savoir quelle en était la raison. Les années passaient et les périodes de mélancolie revenaient encore et toujours. Par moments, il semblait sur le point d'abandonner la lutte. Quand la dépression est sans motif, il n'est pas possible de la raisonner, pas plus que la harpe de David ne peut parvenir à la dissiper grâce au charme de ses doux discours. Donc autant se battre avec la brume que de lutter contre le désespoir informe, indéfinissable, on peut bien dire, et qui pourtant obscurcit tout. Il faut donc une main céleste pour débloquer le verrou de fer qui, si mystérieusement, ferme la porte de l'espoir et qui maintient notre esprit enfermé dans une sombre prison. Mais il lutta malgré tout de tout son cœur. Il considérait sa dépression comme le pire aspect de sa personnalité. Le découragement, écrivit-il, c'est ce qu'il a écrit, n'est pas du tout une vertu, mais je pense au contraire que c'est à peu près un vice. Ou si il continue de dire ceci, j'ai profondément honte de moi quand je sombre dans cet état-là, mais je suis convaincu qu'il n'existe pas de meilleur remède au découragement qu'une sainte foi en Dieu. Avant de nous pencher plus en détail sur ce remède, il convient de mentionner encore un facteur aggravant. Il y a en effet toute la question du conditionnement familial. Juste un exemple, quand des parents gratifient les pleurnicheries de leurs enfants et se font manipuler souvent en cédant à ces sautes d'humeur, eh bien, écoutez bien, cet enfant retiendra qu'il suffit tout simplement de bouder, de pleurnicher pour se faire plaindre. Et 30 ans plus tard, eh bien oui, 30 ans plus tard, il aura deux fois plus de mal à maîtriser ses états d'âme. Quelle est donc la racine du découragement? Martin Lloyd-Jones l'affirme effectivement que la cause ultime, enfin, de toute dépression spirituelle, elle se trouve dans le manque de foi. Par exemple, quand des parents ont pour habitude de céder aux bouderies de leurs enfants. Et pourquoi? Pourquoi tant de gens pratiquant, pourtant, qui pratiquent les églises? Eh bien, ils sont souvent grincheux et fatigués, ce qui les amène ensuite à se sentir abattus, irritables et moralement vulnérables, malgré que c'est des gens d'église. Est-ce parce qu'ils croient profondément ce que Dieu dit quand il recommande à l'homme de ne pas négliger son sommeil? Psaume 127, verset 2. Et parce qu'ils ont pleinement confiance dans son pouvoir d'œuvrer pour ceux qui s'attendent à lui. Ésaïe 64, verset 3 et Psaume 37, verset 5. Et si l'on parvenait à comprendre l'hypothèse selon laquelle le fait de trouver le contentement dans tout vraiment ce que Dieu est pour nous en Jésus. Pourquoi ne pourrions-nous pas partir du principe que la force de l'état émotionnel que représente la foi dans la grâce à venir va jusqu'à favoriser des phénomènes physiques ayant un effet positif sur la santé mentale? Ma conviction personnelle, c'est qu'une foi au ciel, et oui, là nous apprendrons des choses stupéfiantes sur le rapport étroit entre santé spirituelle et santé mentale. Nous pouvons tout de même dire, par conséquent, que la racine du découragement n'est pas du tout une simple question très simple ou simpliste. Elle est même plutôt complexe. Sans nier la complexité de nos émotions et leur dimension à la fois héréditaire, physique et familiale, eh bien mon but est de montrer que c'est bien l'incrédulité à l'égard de la grâce à venir qui nous amène à céder au découragement. Ou bien, pour le dire autrement, que c'est à cause de notre incrédulité que nous ne combattons pas le découragement avec les armes de Dieu. L'incrédulité laisse le découragement suivre son cours sans mener de combat spirituel. Donc Martin Lloyd-Jones a dit que ceux qui ont une tendance au découragement au moment de leur conversion, ils continueront, rappelez-vous, à avoir à lutter beaucoup contre cette tendance après leur conversion. Le sujet de ce CD, c'est bien le combat que nous avons à mener et non les accès de mélancolie qui nous assaillent et nous obligent à lutter. Permettez-moi d'illustrer cela tout d'abord par quelques psaumes, puis en nous penchant sur le type de découragement auquel Jésus a dû faire face. Le psalmiste écrit au psaume 73, verset 26, « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. » Littéralement, la forme verbale employée signifie tout simplement « Mon corps s'épuise et mon cœur défaille. » Je suis abattu, oui, je suis découragé. Mais aussitôt après, voilà qu'il tire une salve contre son découragement. Dieu restera toujours mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Le psaume de David, il ne cède pas, mais il combat l'incrédulité en contre-attaquant. Je répète, il combat l'incrédulité en contre-attaquant. Voici au fond ce qu'il dit. Intérieurement, je me sens très faible. Je me sens impuissant et incapable de faire face. Mon corps est vraiment épuisé et mon cœur est presque mort. Mais, quelle que soit la raison de mon abattement, je ne céderai pas. Je veux placer ma confiance en Dieu et non en moi-même, car Dieu est mon rocher et mon bien précieux. La Sainte Bible regorge d'exemples d'hommes de Dieu qui ont lutté contre l'abattement. Nous lisons au psaume 19, verset 8, « La loi du Seigneur est parfaite et elle redonne la vie. C'est là un aveu on ne peut plus clair que le chrétien a parfois besoin de retrouver la vie. Or, s'il a besoin de retrouver la vie, c'est bien que dans un sens, il était plus ou moins mort. David dit la même chose au psaume 23, versets 2 et 3. Dieu, mon Père céleste, Yahvé, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'âme de l'homme a donc besoin d'être restaurée. Elle était en train de mourir et était sur le point de défaillir, mais Dieu l'a conduite au bord de l'eau et lui a redonné la vie. Dieu a voulu que ces témoignages soient dans la Bible pour que nous puissions les utiliser pour combattre cette forme d'incrédulité que est le découragement. Quelle que soit la cause de notre découragement, Satan, n'oublions pas cet ennemi de Dieu, il l'habille toujours de beaucoup de mensonges. Ce mensonge nous dit par exemple « Oh, c'est cuit, tu ne seras jamais plus heureux, jamais, tu ne retrouveras jamais ta force, tu ne retrouveras jamais ta vigueur et ta détermination, ta vie n'aura jamais plus de sens. » Et Satan continue. Aucune main et aucun matin ne succédera à cette nuit, aucune joie succédera à ces larmes, car tout va de plus en plus mal et tout vient de plus en plus sombre. Ce n'est pas un tunnel, non, 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 mais c'est un puits très profond. Alors, cher ami, tu as meilleur temps de te suicider. Voilà donc la couleur dont Satan habille notre découragement. Or Dieu, Dieu, notre Père céleste, il a tissé sa parole à l'aide de fils de vérité qui s'opposent directement à ces mensonges. Oui, la loi de Dieu qui est désormais accomplie en Jésus, elle redonne bien la vie. Psaume 19, verset 8. Oui, Dieu nous dirige vers des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Oui, Dieu nous fait connaître le chemin de la vie. Psaume 16, verset 11. Oui, la joie éclate au matin. Psaume chapitre 30, verset 6. Les psaumes nous donnent donc de très nombreuses illustrations de cette vérité selon laquelle c'est l'incrédulité qui nous conduit à céder au découragement. Mais il témoigne aussi de ce que la foi, oui, écoutez bien, pardon, que la foi dans la grâce à venir, elle s'empare des promesses de Dieu et elle les lance en direction du découragement. Oui, Dieu reste donc mon rocher et mon bien précieux, et cela pour toujours. Psaume 73, verset 26. Chers amis, nous devons apprendre à combattre le découragement. Une fois encore, il s'agit d'un combat dans lequel intervient au premier chef la foi dans la grâce à venir. Nous sommes donc appelés à le mener en nous prêchant la vérité concernant Dieu et l'avenir qu'il nous a promis. Je répète, et l'avenir que Dieu nous a promis. C'est précisément ce que fait le psalmiste au psaume 42. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton esprit en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Psaume 42, versets 4 et 6. Le psalmiste prêche à son âme troublée. N'ayez pas peur. Il s'adresse des réprimandes et il argumente au-dedans de lui. Et son principal argument, c'est la grâce à venir. Oui, espère donc en Dieu. Aie confiance en ce que Dieu sera pour toi à l'avenir. Je répète, oui, continue d'espérer en Dieu et aie confiance en ce que Dieu ton Père sera pour toi à l'avenir. C'est un jour de louange qui s'annonce. La présence du Seigneur répondra à tous tes besoins et il a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Notez le psaume 23, versets 4 et 6. Le célèbre docteur et théologien Martin Lloyd-Jones, il dit cette prédication à soi-même. Il ne faut pas avoir peur de prêcher à soi-même de la vérité concernant la grâce de Dieu à venir, que cela est un aspect crucial pour venir à bout, vraiment à bout, de la dépression spirituelle. Nous ne devons donc pas avoir peur de parler à notre âme au lieu de la laisser s'adresser à nous. Saisissons-nous la distinction, je vous le demande. Voyez-vous, dans la dépression spirituelle, nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. C'est là que réside le problème essentiel. Je ne cherche nullement le paradoxe. Ce point constitue l'essence même de la sagesse dans ce domaine. Réfléchissons aux pensées qui nous assaillent le matin, déjà au réveil. Nous n'avons rien fait pour les susciter, mais voilà qu'elles commencent à s'adresser à nous, à rappeler les problèmes de la veille, etc. Très souvent, la tristesse va nous envahir pour une raison essentielle, et nous écoutons nous-mêmes au lieu de nous parler. Revenons donc au remède du psalmiste. Il s'interpelle au lieu de s'écouter. Oui, il dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme » demande-t-il. Son âme l'avait déprimé, l'avait même dominé. Aussi lui parle-t-il. Il lui dit « Mon âme, écoute un instant, je voudrais te parler. Pourquoi es-tu abattu? D'où viennent tous ces gémissements? Souvenons-nous alors de Dieu, de son caractère, de ses promesses, de ses œuvres présentes et passées, et puis concluons sur cet élan puissant et relevons le défi, oui, devant nous-mêmes, devant Satan et devant le monde entier. Luttons, combattons, battons-nous et déclarons, comme le psalmiste, Eh bien, oui, je continuerai de te louer encore et encore, car il est mon salut et il est mon Dieu. C'est donc en cultivant notre foi dans les promesses de Dieu que nous sommes appelés à combattre le découragement. Or, cette foi dans la grâce de Dieu à venir, elle se développe en entendant la sainte parole. Et cette prédication à soi-même de la vérité, elle est donc bien au cœur du combat. Pour autant, et puis je tiens à insister à nouveau sur le fait que le propos de ce CD n'est pas tellement comment éviter d'être confronté au découragement, mais plutôt comment pouvons-nous le combattre lorsqu'il nous atteint. En effet, si nous regardons l'exemple de Jésus, eh bien nous voyons que même le Fils de Dieu, qui était absolument sans péché, a rencontré cet ennemi et a dû lutter contre lui. Au cours de la nuit où il fut livré, Jésus mena, on peut dire, d'intenses combats spirituels. Ce qui se jouait cette nuit-là, c'est-à-dire la veille de notre rédemption éternelle, c'était en effet une guerre spirituelle particulièrement terrible, car Satan et toutes ses puissantes armées s'étaient rassemblés pour livrer un combat terrible contre le Fils de Dieu. Et quel que soit le sens de ces flèches enflammé du diable, dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 16, vous pouvez être sûr que cette nuit-là, c'est par un grand nombre qu'elle s'abattait sur le cœur de Jésus à Gethsémané. Le passage de Saint Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 38, nous donne un aperçu de ce terrible combat. Il est dit que là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse commença à le saisir. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Que se passa-t-il ici? Oui, pour quelle raison Jésus est-il saisi par l'angoisse? Eh bien, nous lisons en Saint Jean, chapitre 12, verset 27, « À présent, je suis troublé. Que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure. » Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Autrement dit, son trouble et son angoisse étaient suscités par la tentation de céder au désespoir et de ne pas accomplir sa mission. Donc Satan cherchait à susciter en Jésus un esprit d'abattement qui, faute de résistance de sa part, se transformerait ensuite en résignation et l'inciterait à ne pas accomplir ce que son père attendait de lui. Or, voici quelque chose de très surprenant. L'évangile, selon Saint Jean, dit de Jésus qu'il était troublé. Saint Jean chapitre 12, verset 27 et chapitre 13, verset 21. Les premières ondes de choc générées par le découragement ont rompu la tranquillité de son âme. Pourtant, dans ce même évangile, il est aussi dit que les disciples ne doivent pas se troubler. Dans Jean, chapitre 14, verset 1, Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas ». Le même mot se trouve en Saint Jean, chapitre 12, verset 27 et Saint Jean, chapitre 13, verset 21. « Ayez donc foi en Dieu, mais ayez aussi foi en moi » et de renchérir en Saint Jean, chapitre 14, verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Dans les deux cas, c'est le danger du découragement qui préoccupe Jésus. Les disciples commençaient à perdre courage et même l'espoir, car leur maître et leur ami leur avaient annoncé qu'ils s'en allaient. Au lieu de s'éclairer ou d'éclairer la situation, eh bien, la situation s'assombrissait. Et dans les deux cas, Jésus leur dit, « Ne vous troublez pas et ne soyez pas découragés de la sorte. » Mes chers amis, sommes-nous là en présence d'une contradiction? Alors que Satan agit sous le nez de Jésus et de ses disciples, la perspective d'un avenir sans espoir, l'abattement de Jésus, elle serait donc légitime, mais pas celui des disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Je ne pense pas qu'il y ait là une contradiction. Voici au contraire la logique que j'y vois. Jésus mettait en garde les disciples contre le danger de céder au découragement, c'est-à-dire de capituler sans lui opposer de résistance, contre le danger de le laisser couver et se propager. Et c'est pourquoi il dit « Défendez-vous et croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Saint Jean 14, verset 1. « Si péché il y a, ce ne sont pas les premières ondes de choc provoquées par l'explosion que représente le découragement. Le péché, c'est de ne pas déclencher cette sirène d'alerte aérienne et de ne pas se diriger vers les abris les abris sous les maisons et de ne pas déployer la DCA. Voyez-vous, si Satan va larguer une bombe au-dessus de votre paix et que vous ne vous préparez pas du tout à riposter, eh bien, il y a de quoi se demander de quel côté vous êtes. Nous devons donc réagir, nous devons nous battre. Nous pouvons discerner donc plusieurs tactiques dans la stratégie qui est mise en œuvre par Jésus pour lutter contre le découragement. Premièrement, il s'entoure de quelques amis intimes. Il a pris avec lui l'apôtre Pierre et les deux fils de Zébédée. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 37. Deuxièmement, il leur a ouvert son âme. Il leur a dit, « Mon âme est triste, triste jusqu'à la mort. » Verset 38. Troisièmement, il leur demanda d'intercéder pour lui et de le soutenir dans son combat. Restez donc ici et veillez avec moi. Verset 38. Quatrièmement, il exprima à son père ce qu'il avait sur le cœur dans la prière, quand il a dit au père, « Si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Verset 39. Cinquièmement, il remit son âme à la sagesse souveraine de Dieu. Et il dit, « Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Verset 39. Sixièmement, il fixa les yeux sur la glorieuse grâce à venir qu'il attendait de l'autre côté de la croix. Rappelez-vous, parce que il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12 verset 2. Alléluia. Gloire à Dieu. La véritable leçon que nous enseigne Gethsémané, le calvaire et le livre des psaumes, c'est que toutes les grottes bien sombres dans lesquelles nous plonge le découragement sont en réalité des tunnels qui débouchent sur des champs de joie. Du moins pour ceux qui ne s'asseyent pas dans le noir en éteignant la chandelle de la foi dans la grâce à venir. Amen. Amen. Chers amis, le Seigneur m'a donné quelque chose pour vous transmettre, pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre éducation personnelle. Écoutez bien. Mon fils, ma fille, marche devant moi dans la vérité et cherche-moi toujours dans la simplicité de ton cœur. Celui qui marche devant moi dans la vérité ne craindra nulle attaque, car la vérité le délivrera des calomnies et des séductions des méchants. Si la vérité te délivre, tu seras vraiment libre, et peu t'importeront les vains discours des hommes. Seigneur, il est vrai qu'il me soit fait de grâce selon ta sainte parole. Que ta vérité m'instruise, qu'elle me défende, qu'elle me conserve jusqu'à la fin dans la voie du salut. Qu'elle me délivre de tout désir mauvais, de toute affection déréglée, et je marcherai devant toi dans une grande liberté de cœur. Le Seigneur te dit encore, je t'enseignerai ce qui est bon et ce qui m'est agréable. Rappelle-toi de tes péchés avec une grande douleur et un profond regret, et ne pense jamais être quelque chose à cause du bien que tu fais, car sans la vérité, tu n'es qu'un pécheur qui est sujet à beaucoup de passions et qui est engagé dans leurs liens. Qu'attends-tu donc que tu puisses te glorifier? Que crois-tu? Et que de motif au contraire pour te mépriser toi-même, car tu es beaucoup plus infirme que tu ne saurais le comprendre. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Ô Seigneur, tu vois et tu sais combien notre âme est facilement détournée de toi qui es la source de notre vie, et combien nous nous attachons aux choses périssables de ce monde. Nous nous attachons à ses vaines richesses, à sa force et à ses plaisirs, jusqu'à notre perte et à l'oubli de toi. Fais-nous donc méditer la question que nul ne peut éluder. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ô Dieu, Dieu de notre vie et Rédempteur de notre âme, dispose-nous par ton Esprit Saint à tout sacrifier pour acquérir la vie et la paix de notre âme en toi. Et entends-nous, Dieu, notre Père, et aie pitié et compassion de nous. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et de ce fait, il est évidemment de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous et je vous dis, oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous mettre quelques chants, mais cette fois-ci, c'est de 1980. 1980. Et essayons de voir si ça fonctionne.
Precious Lord, vingtaine d'années environ, un train de l'Est des États-Unis roulait vers la ville du célèbre évangéliste Moody à Chicago, dans l'Illinois. Parmi les passagers de ce train, il y avait un jeune musicien, Philip Bliss, qui partait avec sa femme aider l'évangéliste américain. Près d'une petite ville de l'Ohio, un pont s'effondra, plongeant ainsi le train dans une rivière glacée. L'histoire dit que Bliss remonta à la surface et, ne voyant pas sa femme, retourna la chercher. Réunis pour toujours dans les eaux glacées, ils sont morts ensemble. Le chant que nous allons interpréter fut trouvé dans leur valise. Il fut écrit le 20 décembre 1876. Son titre dit ceci: « Oh, quel bonheur de le connaître !» Il exprime simplement tout ce que l'Évangile apporte dans une vie.